on parlait tout à l'heure également de du rôle que jouait Jean Moulin dans l'unification de la résistance. Et donc il avait des missions bien précises pour arriver à créer le fameux Conseil national de la résistance, le CNR.
Oui, on peut faire le lien avec la guerre d'Espagne à nouveau, c'est-à-dire que le problème qui se posait pour le peuple français résistant, c'était le problème de l'armement, de la même façon qu'il s'était posé pour les républicains espagnols. Pour Jean Moulin, il fallait armer le peuple. Le peuple devait obtenir sa libération par une dignité citoyenne qui passait à ce moment-là par un acte de violence. Or, donc, Jean Moulin a dû admettre que la solution, la seule solution, c'était la solution de Gaulle. Il a admis ça dans des conditions qui sont intéressantes à relever. Le grand adversaire d'Hitler en France, c'était Pierre Cotte. Hitler s'en est pris par deux fois à Pierre Cotte avant Munich, en disant « Pierre Cotte, ministre de l'air français, veut utiliser la Tchécoslovaquie comme un porte-avions qui est directement braqué sur nous autres Allemands. » Donc Pierre Cotte a eu un rôle essentiel avant-guerre dans la lutte contre Hitler et contre les fascistes français. Quand on dit Pierre Cotte, on dit Jean Moulin. Or, Pierre Cotte est parti à Londres très très tôt.
Et voilà, Pierre Cotte est un des premiers hauts personnages à se rendre à Londres, fin juin 1940, donc très rapidement après l'appel du général de Gaulle. Et il est reçu à Londres par le général de Gaulle comme un chien sur un jeu de quilles. C'est-à-dire que le général de Gaulle se vante dans ses mémoires en disant « Pierre Cotte est venu me voir et il m'a juré à l'utiliser à n'importe quelle tâche, même à balayer l'escalier ». Mais M. Cotte était trop voyant et il n'était pas question pour moi de l'utiliser. Voilà. C'est à peu près en ces termes-là que De Gaulle parle de Pierre Cotte. Il est évident que c'est étrange ce comportement du général De Gaulle qui n'avait déjà pas grand monde autour de lui et qui se permet de refuser un personnage de la valeur de Pierre Cotte.
Cela se passait donc, comme Françoise vient de le dire, à la fin du mois de juin 1940. Or, le 25 octobre 1941, un an et plus après, Jean Moulin se retrouve devant Charles de Gaulle. Le moment est assez risqué pour Jean Moulin. Il peut toujours se dire, va-t-il me jouer le même tour qu'à Pierre Cotte ? Mais Jean Moulin avait, lui, pu prendre certaines précautions. Il arrivait là avec des informations et avec des exigences. C'était dire au général de Gaulle, alors, vous prétendez être le meneur de la résistance, eh bien, chiche. Or, il faut bien se dire que les documents de l'époque ne viennent d'être publiés que très récemment. C'est-à-dire que De Gaulle a répondu, sans répondre, aux questions posées par Jean Moulin. Et on peut simplement dire que Jean Moulin demandait des armes, De Gaulle rétorque, affaire à suivre, en quelque sorte. Jean Moulin demande de l'argent, De Gaulle rétorque, affaire à suivre. Simplement, ce que De Gaulle trouve intéressant dans ce que lui propose Jean Moulin, c'est comment je la mets au garde à vous, cette résistance. Tout commence comme cela. Or donc, on peut imaginer que Jean Moulin a trouvé la pilule amère. Eh bien, peut-être pas du tout. Car Jean Moulin avait pris soin de se renseigner sur le général de Gaulle, et donc on peut tout de suite renvoyer au livre rédigé par le général de Gaulle en 1934. Ça s'appelle « Vers l'armée de métier ». On y découvre un général de Gaulle qui a eu comme élève, avec toutes les précautions que cela implique, un certain Adolf Hitler qui s'est fait traduire ce livre-là et qui a découvert la méthode pour attaquer sans déclaration de guerre les pays proches. C'est écrit noir sur blanc par Charles de Gaulle, qui ne se gêne pas d'ailleurs pour expliquer que si on prend Paris, on a la France. Le général de Gaulle, donc, était un militaire à l'époque, qui faisait son travail sans doute, d'une façon qui n'est peut-être pas la façon la meilleure, et il faut dire que Jean Moulin avait vu ça de près. Donc il se rapprochait du général de Gaulle avec certaines précautions. Ça n'enlève rien à la grandeur du général de Gaulle. Simplement, ça ajoute à la dimension politique de Jean Moulin.
Donc Jean Moulin a dû, en quelque sorte, se faire
accepté par le représentant officiel intronisé par les Anglais et les Américains, puisqu'en définitive, De Gaulle, je ne veux pas dire que c'était un général parmi tant d'autres à cette époque-là, mais en fait, il fallait que la France puisse être représentée par quelqu'un. Donc on ne fait pas ce soir une petite discussion sur De Gaulle et pourquoi De Gaulle, mais tout simplement donc pour montrer un peu que les gens qui venaient à Londres devaient tous, je ne veux pas dire obédience au général De Gaulle, mais devaient tous transiter par passer l'examen de passage. Donc apparemment, Jean Moulin s'en est-il bien tiré, le général De Gaulle l'a-t-il effectivement apprécié, ou lui réservait-il, sinon un chien de sa chienne, du moins pensait-il lui réserver un second rôle un jour ou l'autre. En définitive, ces relations Moulin-De Gaulle, comment ont-elles évolué par la suite?
Je voudrais dire une chose, c'est que certes, Moulin devait en quelque sorte être accepté par De Gaulle, mais c'est réciproque. C'est-à-dire que De Gaulle devait être accepté aussi par la résistance, et ce n'était pas du tout évident.
Ensuite, sur le fait de savoir comment cette chose a pu évoluer entre De Gaulle et Jean Moulin, on peut aller très vite et signaler que quelque temps avant que les choses se gâtent vraiment pour Jean Moulin a rédigé un texte à destination du général De Gaulle.
Oui, c'est un rapport.
Pour,
hein.
Voilà, un rapport. Voilà, un rapport très dur dans lequel Jean Moulin dit ce qui m'a été promis il y a 18 mois environ n'a pas été tenu. Dans le cas précis, évidemment, De Gaulle ne s'était engagé ni sur les armes ni sur l'argent. Il s'était engagé sur le fait de savoir si on les mettrait au garde à vous ou pas, ces résistants. Et dans ce genre de questions, ce que De Gaulle avait eu à proposer à Moulin, c'était de mettre à sa disposition des officiers qui donc auraient été parachutés en France et qui auraient dû faire le travail de mise au garde à vous des résistants de la base. Or, très peu de temps avant que les Allemands ne l'arrêtent, Jean Moulin dit au général De Gaulle « Et même cela, vous ne l'avez pas tenu. » Et c'est tout à fait dramatique parce que le général de Lestrin, donc chef de l'armée secrète, qui n'avait pas obtenu ses officiers promis par le général de Gaulle, a donc été arrêté le 9 juin 1943 dans des conditions terribles où semble interférer un personnage qu'on retrouve au moment de la réunion de Caluire, c'est-à-dire René Hardy. Pour ce qui nous concerne, le travail sur Jean Moulin est né simplement de la confrontation entre les dates d'arrestation respective du général de Lestrin et de Jean Moulin, 9 juin, 21 juin, et par ailleurs, d'autres indices permettaient de voir que quand on éliminait de Lestrin, on coupait le bras droit de Jean Moulin, il restait à lui couper la tête.
Effectivement, le général de Lestrin était le chef de l'armée secrète, donc le côté militaire de la résistance, et Jean Moulin était le chef de la résistance, le côté politique. Et ce n'est pas du tout un hasard que ces deux têtes de la résistance tombent à peu de jours d'intervalle. Sur cette question-là, je voudrais d'abord aborder cette histoire de la réunion de Caluire. Le principe fondamental de la sécurité dans la résistance, c'était qu'on devait se rendre aux réunions auxquelles on était invité et qu'on ne devait absolument pas se rendre aux réunions auxquelles on n'était pas invité. Ça paraît comme cela assez logique, mais ça n'a pas été forcément logique. C'est-à-dire que au moment justement où il est question de remplacer le général de Lestrin, chef de l'armée secrète, qui vient de tomber, et donc on fait la réunion de certaines personnes qui s'occupent de la branche militaire, et curieusement, une personne est poussée à cette réunion, une personne qui n'était absolument pas invitée, c'est René Hardy. René Hardy se rend à la réunion, il n'est pas invité, mais il est poussé par un personnage sur lequel on pourrait dire beaucoup de choses.
En l'occurrence,
nous n'avons pas coutume de donner le nom de ce personnage par radio, en quelque sorte, parce que L'important, c'est de voir les documents, c'est de voir les enjeux du temps et de mesurer le rapport qui peut exister entre ce que ce personnage a fait, certaines motivations politiques. Donc nous ne donnons pas ce nom-là, nous le donnons bien évidemment dans le livre, parce que dans le livre figurent les documents qui permettent, nous semble-t-il, d'avoir une idée tout de même assez claire des enjeux du temps. Ceci dit, la réunion Caluire a été souvent évoquée, donc ça devient une sorte de roman policier. Et dans ce sens-là, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi certains avaient décidé d'éliminer Jean Moulin. Et il est important de dire que peu de temps avant la réunion de Caluire, un courrier a transité entre Claude Bourdet, qui était un grand résistant et qui vient de nous quitter, un courrier dans lequel on disait, je n'entrerai pas dans les détails concernant le « on disait que ce Moulin, proche de Pierre Cotte, était tout de même quelqu'un d'un peu gênant. Car certains dans la résistance savaient très bien qui était Moulin, mais certains personnages de la résistance, à un très haut niveau, ignoraient totalement qui était Moulin, on ne savait pas qu'il avait été préfet. Donc certains qui étaient bien informés, et qui se trouvait quelquefois déjà le 6 février 1934 du côté des émeutiers d'extrême droite, dont certains de ces personnages-là se trouvaient, curieusement, à un très haut niveau au cœur de la résistance. Et donc eux savaient certaines choses. Et la chose curieuse, c'est que 50 ans après, nous en soyons pratiquement tous à ne pas savoir ces choses que ces gens-là savaient très bien.
Oui. En fin de compte, Jean Moulin a été trahi par l'un des siens ou par un opposant pour des raisons politiques ou,
René Hardy a été l'exécuteur du crime, mais il y a un commanditaire du crime. Il vit encore. Je voudrais ajouter une petite part d'humour. Nous ne portons pas des gilets pare-balles, donc nous ne le nommerons pas. Mais il vit encore. C'est aussi le problème pour Daniel Cordier, sans doute. Il y a sans doute cette raison. Ce monsieur qui vit encore empêche sans doute d'une certaine manière Daniel Cordier de publier son 4e tome, qui aborde donc qui devrait aborder l'arrestation de Caluire.
Donc, et je présume qu'il s'agit de quelqu'un de respectable et de décoré.
Tout à fait, qui a des titres, mais je dois dire que son personnage est complètement usurpé d'un bout à l'autre de la carte d'identité.
D'accord, je vous propose la 4e et dernière pause musicale.
Créateur de cette chansonnette, passé jadis pour un vrai chevalier, d'autres encore parmi tant de grosses têtes ont dans l'épreuve complètement perdu pied. On les croyait très bien, ils étaient moches, et c'est ainsi qu'ils se sont révélés, en préférant faire des sourires aux bosses par calcul ou stupidité. Et tout ça, ça fait de mauvais Français pour lesquels il n'est que le porte-monnaie. Faut savoir être opportuniste afin de sauvegarder ses petits intérêts. Et ils se sont mis à grands coups de Vichy au régime collaborationniste. Bien sûr, maintenant, ça devient gênant, car tout de même, ces saletés-là, quoi qu'on puisse dire, ça ne s'oublie pas. Mais à côté de cette racaille honteuse, dont la conscience est un billet de 1000 francs, il y a la France, fière, digne et douloureuse, toute la France et ses millions de braves gens. Parmi ceux-ci est une élite rude, vivant symbole des vertus du pays, qui préférant tout à la servitude, armes à la main, a pris le maquis. Et tout ça, ça fait d'excellents Français, des hommes au grand cœur, sans projet, sans peur, qui combattent pour que notre France soit toujours à l'avant-garde de l'honneur. N'ayant simplement pour tout ralliement qu'un seul mot, rien qu'un seul, résistance, étroitement unis comme des amis. Oui, ceux-là, ce sont de vrais, de bons et d'excellents Français. Étroitement unis comme des amis. Oui, ceux-là, ce sont de vrais, de bons et d'excellents Français.